your very worst season.
Nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Galère pour une nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre sur l'actualité internationale toujours aussi foisonnante. Bonjour à Roselyne, qui est sous son casque, voilà, dans son aquarium aux manettes, et bonjour à Habib qui est là aussi.
Bonjour, bonjour.
On va faire un petit tour
auditeurs
de Comaguerre. Alors on va faire un petit tour d'horizon, comme d'habitude. Je vais commencer par vous reparler un petit peu d'Haïti, puisque le cinéma d'Haïti, enfin, l'histoire de « il faut des troupes étrangères pour que le peuple haïtien soit sage », ce qui n'est pas sage, puisque de toute façon, il est d'abord pas gouverné, puisqu'il a plus de premier ministre, et il est en prise entre les mains d'un certain nombre de gangs, et donc effectivement la situation à Haïti n'est pas... ne peut pas continuer comme ça. Alors vous savez que la réponse, c'est de la part des États-Unis, subsidiairement de la France, qui joue un rôle très très important du fait du passé historique et du Canada principalement, consiste à dire il faut un peu calmer la situation, on se tue dans les rues, la crise économique est très très importante, il faut envoyer des troupes pour maintenir l'ordre. Alors, envoyer des troupes, c'est annoncer une mesure qui est facile à dire, c'est pas facile à prendre parce qu'il faut trouver des gens qui sont d'accord pour allier, et puis il faut surtout passer sur le fait que les troupes étrangères qui ont déjà été envoyées sous le casque bleu des Nations Unies à Haïti n'ont pas fait des prestations de très haute qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a certains qui ont amené le choléra sur place, donc c'était pas prévu au programme, et puis ils ont fait ce qu'il fallait comme nombre de viols, de maltraitance de la population. Enfin, les casques bleus de l'ONU sont pas bien vus, il y a un passé assez négatif de la part de la population haïtienne. Alors donc les États-Unis, le Canada et la France essayent de trouver une solution différente, qui ne soit pas des casques bleus, qui soit une espèce de milice internationale qui serait payée par les États-Unis, je vais donner des précisions là-dessus, mais les États-Unis disent « allez-y, faites le travail, faites la police, on la paye, mais nous surtout on n'y est pour rien, on est là juste dans les coulisses à tirer les ficelles et à faire un chèque ». Bon, ça, ils sont tout à fait fidèles à lui-même. Alors, on a déjà parlé à l'antenne de la demande d'intervention des Kényans. Alors, je ne sais pas exactement où ça en est, puisque j'arrive pas à savoir cet engagement donc, du président kényan Ruto pour envoyer des soldats ou des gendarmes de la police kényane a été mis en œuvre. Je ne crois pas, il n'y a pas de trace. On sait que les réserves dans la population kényane sont fortes par rapport à ce type d'intervention. Mais l'idée de dire, et c'était la même idée qui se reproduit, c'était de dire on envoie des gens noirs et avec des noirs haïtiens, ça se passe mieux. Bon, c'est pas vrai du tout, je veux dire, comme si... C'est pas vrai du tout, comme si le fait d'avoir la même couleur de peau, ça évitait les tueries, les carnages et les inégalités sociales. Ça n'a pas de sens. Si on disait ça, ça veut dire, c'est pas possible, par exemple, qu'il y ait des milliardaires en Afrique du Sud, parce qu'ils sont noirs. Ben, c'est pas vrai, il y a des milliardaires en Afrique. Voilà, donc, ces genres de bêtises raciales sur la couleur de peau et tout, et ça amène à des comportements bons ou mauvais, c'est stupide, mais on en fait un usage encore, hélas, trop abondant.
Et d'ailleurs, ils utilisent aussi la religion.
Oui, alors ça, voilà, c'est où la couleur, la religion. Alors, il y a X moyens bien connus de diviser les populations sur elles-mêmes. Hein, c'est entre autres, effectivement, ça, les critères racistes ou les critères religieux. C'est tout à fait, on y reviendra. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les Kényans, ça n'a pas l'air bien clair. Et les dirigeants, donc les États-Unis, la France, ont trouvé un autre pigeon. Oui, c'est un autre pigeon. Il s'agit du Bénin. Le Bénin, donc, qui est présidé par M. Talon, et à qui il a été proposé d'envoyer 2000 soldats, enfin, qui a dit je suis prêt à envoyer 2000 soldats, donc de l'armée béninoise, pour faire la police dans les rues de Port-au-Prince en particulier, dans le reste d'Haïti. Bon. Alors, c'est là que ça mérite d'être examiné. Ce monsieur Talon, il a dit oui. Alors, ce monsieur Talon, il est dans une situation politique un peu fragile. Il est à la présidence de la République. Il sera rééligible l'année prochaine. Donc, il fait attention à ce qu'il fait. Et en fait, ça permet d'aller un peu voir qu'est-ce qu'on lui a promis pour qu'il accepte ça. Alors, Ça veut dire, alors soyons clairs, si il accepte cette proposition des États-Unis avec des milliers de dollars à la clé, ça veut dire qu'il attend un soutien des États-Unis pour garder la présidence du Bénin. Que les choses soient bien bien claires, il ne fait pas ça pour être gentil avec Biden ou avec Blinken. Il fait ça parce que ça peut lui rapporter politiquement. Effectivement, il a bien envie de rester, alors qu'il est fortement contesté par les Béninois sur place. Donc, qu'il accepte, lui, ça va. Après, il faut aller un peu plus loin, et en cherchant un peu plus loin, on découvre, j'allais dire, le poteau rose. Et le poteau rose, il n'est pas triste, parce que, savez-vous combien les États-Unis mettent d'argent dans ce genre de processus? Eh bien, c'est très simple. Chaque soldat béninois qui sera envoyé, donc il y en a 2000 qui sont prévus, qui seraient envoyés à Haïti, touche 4 000 $ par mois. Alors, pourquoi 4 000 $? Ben, c'est aligné sur le salaire d'un GI qu'on enverrait si on l'envoyait faire ce genre de travail. Hein, donc, un soldat de l'armée américaine. Voilà. Alors, 4 000 $ aussi, c'est bon. Alors, donc, il va y avoir foule de candidats. Eh ben non. Parce que ces 4 000 $ par soldat et par mois ne vont pas directement aux soldats. Elles vont dans la poche de M. Talon. Il reçoit le chèque pour tout le monde. Et il ne distribue pas tout. Il ne distribue pas tout, parce qu'il, vous rendez compte, pour un soldat béninois, gagner 4 000 $ par mois, c'est pas possible, c'est je sais pas combien de dizaines de fois ce qu'il gagnerait en tant que soldat. Donc on va le ramener au salaire du soldat béninois, avec peut-être une prime d'expatriation, et sur les 4 000 $ par soldat par mois touchés par le Bénin, M. Talon gardera le maximum, et il restera peut-être, j'ai pas fait les calculs, mais 200 ou 300 $ pour le pauvre soldat à la base. Donc c'est une opération honteuse de vol qui permet d'enrichir un dictateur sur la peau de ces pauvres soldats qui seront là, parce qu'en plus ils ne sauront pas trop quoi faire, parce que comment séparer dans une émeute Haïti, un endroit qu'on ne connaît pas, les bons et les méchants, c'est pas très facile à faire, d'autant plus qu'il faut savoir que les gangs haïtiens sont quand même particulièrement bien armés et sévères. Donc aussi bien, il y a des soldats béninois qui mourront dans l'opération, alors on plaint leur famille à l'avance, mais ça sera merci Monsieur Talon, on vous a acheté, alors je fais le calcul, hein, 4 000 $ par mois pour 2000 soldats, bon ça fait quand même à la fin du mois un assez joli paquet de dollars, et puis s'il reste 1 an, 2 ans et tout, Monsieur Talon a fortune faite. Voilà ce que c'est que l'exploitation des pays pauvres dans le cadre des opérations humanitaires. C'est-à-dire, on se moque de ces pays pauvres, vous faites de l'humanitaire chez les autres, et chez vous, tant pis pour vous, débrouillez-vous avec votre dictateur local. Alors, je pense qu'on en reparlera, parce que au Bénin, ça ne passe pas tout seul non plus, parce qu'il y a des partis politiques au Bénin, il y a une opposition qui a mis le doigt sur ce poteau rose, qui a dit, mais voilà ce qui va se passer, et donc, effectivement, M. Talon sera contesté beaucoup plus que ce qu'il ne pensait. Mais ça, évidemment, j'insiste là-dessus, parce que c'est pas le genre d'information qu'on va vous présenter sur les écrans de télévision français, parce que M. Talon est aussi un ami de la France, même s'il a compris que l'affaiblissement du colonisateur français amenait à plutôt travailler avec le colonisateur américain dans ses nouvelles règles qu'à continuer avec le colonisateur français. Ça, il a compris, il n'est pas le seul à avoir compris, d'autres l'ont fait, et puis d'autres ont compris de telle façon qu'ils disent « on ne veut ni de l'un ni de l'autre ». Je pense à nos amis du Mali, du Niger et du Burkina qui disent « non, ni la France, ni l'armée des États-Unis à la place, ben, c'est la même chose hein. ». Bon, les dollars en plus, mais c'est la même politique. Voilà, donc...
Il en a assez, Macron, de l'argent.
Oui, il n'a pas de problème d'argent. Oui. Non, il n'a pas de problème d'argent. On ne sait pas où il l'a mis, mais il en a forcément. Et puis, les gens pour qui il travaille en ont. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. À ce propos, d'ailleurs, je le dis parce que je n'avais pas prévu de le dire à l'émission, mais il faut savoir que la sécurité sociale française, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, donc qui chapeaute le système d'assurance maladie, est en train de lancer des séminaires avec des groupes amis en Allemagne, en Finlande, en Irlande, pour ce qu'on appelle, écoutez bien le mot parce qu'il faut que vous le mettiez dans l'oreille, ça s'appelle la financiarisation de la santé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir une caisse où il y a des cotisations et on fait ce qu'il faut pour que les gens soient en bonne santé, il s'agit de dire, là, il y a de l'argent à gagner. Parce qu'ils ont compris, ces messieurs, que quand vous dites à quelqu'un, c'est votre santé qui est en jeu, ce monsieur, s'il dit c'est pas gratuit, ben je vais faire un effort. Hein. Et donc les banquiers se sont dit, mais là, donc on a une clientèle énorme, et donc il faut financiariser la santé, en faire un endroit où on va gagner, où on peut gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, je ferme cette parenthèse, mais c'est intéressant de bien comprendre ce qui se passe. Alors, ça, vous lisez ça sur le site de la Caisse nationale d'assurance maladie, ça a l'air très sérieux, très sage et tout. Puis vous dites, mais attendez, qu'est-ce que c'est ce séminaire sur la financiarisation? Eh bien, ça veut dire qu'on est en train de préparer l'arrivée des banquiers dans la sécurité sociale. Jusqu'à présent, c'était les cotisations des travailleurs et de leur employeur. Non, c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, on va ouvrir la porte aux autres. Alors, en plus, ils ne prendront pas tout le risque parce que les autres continueront à cotiser. Eux, ils arriveront en disant, là, il y a du bénéfice à faire, ou il y a telle prestation qu'on assure, ou tel traitement de pointe, vous savez, ces machines qui coûtent extrêmement cher. Là, vous pouvez y avoir droit, mais il faut un peu mettre la main à la poche. Hein. C'est ça, la financiarisation. Alors, je le dis parce que ça fait propre, là, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Sécurité sociale. Ça fait propre, oui, mais c'est aussi travaillé de l'intérieur par les puissances d'argent qui veulent que finalement le bénéfice soit pour eux, et pas pour le salarié, pas pour le malade. Bien. On aura l'occasion d'en reparler, peut-être, ça sera peut-être même à l'ordre du jour de la manifestation du 1er mai, encore que je suis assez étonné que ce type de discours, parce que ce que je le lis sur Internet, et il n'y a rien de secret ni rien, ce type de discours ne soit pas assez repris par les organisations syndicales. Parce que ça en dit long sur la suite des événements. Hein. Bon. Alors, je vais vous parler un peu de la Syrie. Parce que la Syrie, d'abord, s'est manifestée à l'ONU. À la bouche de son représentant, il y a un représentant permanent à New York qui s'appelle Monsieur Kouzaï al-Dalak. Dalak, je le prononce mal peut-être. Hein. Ça peut aller. Donc qui est intervenu au Conseil de sécurité. Il est intervenu au Conseil de sécurité, non pas pour parler de la Palestine, mais pour parler de la Syrie. C'est normal, il est là pour ça. Et pour dire que la Syrie entamait cette démarche auprès du Conseil de sécurité pour dire qu'elle en avait assez d'être occupée par des troupes étrangères auxquelles elle n'a pas fait appel. Voilà. Ça, c'est quand même très très important de dire, ben, il y a une partie, alors nous on le sait, je l'ai déjà dit à l'antenne, Habib le sait encore mieux que moi, on sait qu'il y a une partie du territoire de la République arabe syrienne qui est occupée par des armées étrangères qui n'ont pas été invitées. À différencier très spécifiquement, et j'insiste, de l'armée russe qui a été invitée en tant qu'alliée à aider la Syrie à se défendre. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle est venue, parce qu'on ne sait pas combien de temps la Syrie aurait pu tenir face aux autres, ceux qui occupent son territoire, sans qu'on leur ait rien demandé.
Et les techniciens iraniens.
Voilà. Et donc, il y a sur le sol de la Syrie, tel qu'il est délimité sur les cartes, tel qu'il est reconnu par les Nations Unies, des troupes des États-Unis, des troupes turques et quelques autres qui sont des mercenaires à leur charge. Mais l'important, c'est ça. On a donc deux pays membres de l'ONU qui occupent un territoire illégalement. C'est là-dessus qu'il est intervenu. C'est illégal, cette occupation, et ils doivent s'en aller. C'est tout, point. Ils ne sont pas chez eux, ils doivent s'en aller. Et puis, alors ça, c'est le premier motif de mécontentement de la part du gouvernement syrien. C'est-à-dire, ils ne devraient pas être ici, ils sont pas, on ne les a pas acceptés, on ne les a pas accueillis, qu'ils s'en aillent. Première demande. Deuxièmement, depuis qu'ils sont là, ils nous volent.
Ça, c'est,
voilà. Alors ça, c'est le deuxième motif de mécontentement. Non seulement ils sont là, ils pourraient dire on surveille, on fait je sais pas quoi. Non, ils sont là pour voler. Ils sont là pour voler, je le dis tellement et j'insiste là-dessus, que ça a été reconnu par Donald Trump lui-même, qui a dit « Ah, mais dans la mesure où il y a une société des États-Unis qui exploite le pétrole syrien, je la défends. » Hein, donc, où que ce soit, je viens voler chez les autres, je défends militairement le voleur, etc. Ça, c'est le deuxième... C'est la deuxième raison. Et donc, enfin, il ajoute, troisième motif de protestation de la Syrie, donc devant le Conseil de sécurité, c'est de dire en fait, en plus de cette armée, ces deux armées étrangères, donc d'États étrangers, membres de l'OTAN tous les deux, les États-Unis et la Turquie, sur le sol de la Syrie, vous avez aussi, enfin, on a aussi fait venir toute une série de mercenaires djihadistes qui sont appuyés par les deux précédents, puisqu'on les aide, on les forme, on leur donne des munitions, on les soigne à l'occasion. Donc en plus de ça, sur l'autre partie du territoire, celle sur laquelle on est complètement chez nous, sans l'armée des États-Unis et sans l'armée turque, il y a en plus des djihadistes, donc qui, au nom de l'islam, mais ça c'est un prétexte, font semer, sèment la terreur, tuent des gens, font sauter des bombes, etc. Ça fait trois motifs pour lesquels je me mets dans la peau du représentant syrien. Moi, représentant de la Syrie, je dis que l'ONU doit intervenir pour faire cesser ce système qui éprouve, alors je parle même pas, il l'a fait lui aussi dans son discours pour expliquer les souffrances que ça suppose pour le peuple syrien. Parce que c'est pas facile tout ça, avec des risques avec ces djihadistes qui sont sur place d'opérations terroristes, de meurtres, de tirs, bon, plus des interventions. Alors je sais pas s'il l'a mentionné, il s'ajoute à ça, de temps en temps, comme ça, un bombardement de l'armée israélienne, bon, oui. En plus. Oh, voilà. Alors, essayez de réfléchir dans la place d'un gouvernement d'un pays souverain qui dit, ben mon pays, je fais ce que je peux pour le faire fonctionner, c'est très très dur pour les habitants, de plus en plus, ça fait quand même 14 ans, oui 13 ans que ça dure, hein, mais tout est illégal. L'occupation illégale du territoire, le vol des richesses, parce que j'ai parlé du pétrole, mais il y a aussi les richesses agricoles, oui, en particulier ça. Les récoltes de blé, c'est-à-dire que le blé syrien est volé et n'est pas dans le pain et dans les boulangeries syriennes, il est ailleurs, surtout en Turquie en particulier.
Et bon. Puis le coton.
Voilà, et puis le coton. Donc c'est ça. Donc, c'est bien parce que c'est la première fois à ma connaissance que la Syrie est aussi ferme dans ses positions. Ça veut dire qu'elle a compris que c'était le moment d'un peu de taper le poing sur la table en disant « je n'accepte plus ce genre de traitement ». Et donc il faut effectivement revenir à une situation normale où il n'y a pas d'armée d'occupation, j'ai pas demandé aux États-Unis de venir, j'ai pas demandé aux voleurs de voler, c'est lui qui vole, il est coupable de vol, et ça fait pas 6 mois, ça fait 10 ans que ça dure le vol.
Et donc,
la Turquie qui coupe l'eau. Alors si la Syrie demandait des réparations, elle disait ben voilà, vous avez pris tant de millions de tonnes de pétrole, c'est temps, payez maintenant. Et ça serait justice. Alors je ne sais pas si un jour ça arrivera devant la Cour internationale de justice. Donc ça serait ça normalement. Un jugement de la Cour internationale de justice sur une affaire pareille, vol dans un pays étranger des recherches, des ressources et des richesses de ce pays, ça se paye. C'est un voleur, il paye, hein, puis éventuellement il fait de la prison. Hein. Bon, on verra. Mais je voulais insister là-dessus parce que c'est quand même un espèce de tournant, enfin c'est une avancée dans la position de la Turquie, de la Syrie, qui est plus ferme. Ça veut dire qu'elle pense que c'est le moment de le faire, qu'elle a des appuis diplomatiques aussi bien du côté de l'Iran que du côté de la Russie, et certainement et du côté de la Chine, pour dire maintenant j'en ai assez d'être traité comme ça par la communauté internationale. Hein. Vous êtes en dehors complètement, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes des voleurs, partez. Bon. Voilà. C'est dit, il fallait que ce le fût, Et puis, voilà, alors, ça c'était pour parler de la Syrie. Alors, c'est l'occasion d'évoquer, évidemment, la situation en Palestine avec plusieurs choses. Plusieurs choses. La chose qui me paraît la plus importante et qui sera certainement pas la plus relayée par nos médias, c'est l'interview très très longue de Monsieur Philippe Lazzarini par l'agence TASS à Moscou. L'agence TASS, c'est la grande agence de presse russe. Et donc, il était à Moscou, il a été interviewé longuement. Et la question qui lui était posée, c'est de dire, vous qui êtes, enfin pas lui, Philippe Lazzarini, vous qui êtes le secrétaire général de l'UNRWA, vous avez 13 000 salariés à Gaza, 13 000 salariés rien qu'à Gaza, donnez-nous votre appréciation sur le nombre de victimes. C'est-à-dire, on lui demandait de dire, est-ce que les chiffres qui sont avancés par les Palestiniens, par le Hamas, sont réels? Et il dit, écoutez, moi, ce que mes salariés, ce que mes témoins sur place disent, c'est tout à fait cohérent. Je vois aucune raison de critiquer ces chiffres. Ils me paraissent tout à fait viables. Et il dit, j'ai une espèce d'unité de mesure. Sur mes 13 000 salariés, j'ai eu 180 morts. Il y a quand même 180 salariés. Alors, en appliquant cette proportion-là au reste de la population de Gaza, on arrive à peu près aux chiffres qui sont diffusés par les Gazaouis et par le Hamas. Donc, il dit, pour moi, c'est tout à fait valable, il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'exagération, et on est peut-être même en dessous de la vérité. Alors, il est très prudent, il est donc un embauché de l'ONU pour diriger l'UNRWA depuis des années, il est suisse, ce monsieur, de nationalité, il fait son boulot. Ça, c'est très très important qu'il le dise. Et puis, dans le reste de l'interview, il insiste pour dire, mais attendez, mes 13 000 personnes-là, ils ne sont pas là pour se tourner les pouces. Ce n'est pas des casques bleus qui se baladent dans un véhicule blindé pour faire des patrouilles. C'est des gens qui assurent l'éducation de tous les enfants de la bande de Gaza. Et c'est des gens qui assurent les soins de tout le monde.
Et ça, écoles, les
voilà,
universités.
Voilà. Et c'est, alors, c'est à l'échelle de 600 ou 800. Alors, ils disent des écoles, il n'y en a plus. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de bâtiments d'école. Il n'y a plus de bâtiments. Mais il dit, c'est ça que je fais. C'est ça que lui leur a fait. C'est pas lui. Ben, c'est ça que nous faisons. C'est-à-dire assurer à cette population qui est en prison, Gaza, c'est une prison, assurer que ces gens-là ne sont pas simplement des arriérés mentaux, analphabètes et tout. Ils sont éduqués grâce à nous. Et ça, je continue.
Voir, tous les hôpitaux qui ont
sûr.
Été détruits, les matériels qu'il y avait dedans.
Tout à
donc,
fait.
C'est voilà. pas des...
Non, non, c'était pas seulement un dispensaire de campagne avec des
ouais,
pansements.
Exactement.
C'était des vrais soins. Donc ça, il dit ça, tout ça, je le fais et je veux continuer à le faire. Et je veux que l'ONU continue à me donner mandat pour le faire. Et alors le journaliste, naïvement, lui dit, vous pensez pas qu'Israël veut se débarrasser de vous? Il dit, oh, bien sûr, j'ai compris depuis longtemps, mais je pense qu'on les laissera pas faire. Donc il doit avoir suffisamment d'écho dans les couloirs de l'ONU auprès du secrétaire général pour savoir qu'heureusement, l'ONU n'en est pas réduit à se soumettre totalement aux volontés de M. Netanyahou. C'est tant mieux. Hein. Donc je vous recommande, alors si vous lisez l'anglais, parce que l'interview d'origine est en anglais sur place, vous tapez... TAS Lazzarini, vous la trouvez sur Internet très facilement, elle est très très bien faite et très complète. Et donc on a affaire à un monsieur qui mesure ses mots, qui est bien repris. Quand on a 13 000 salariés sur place, on a quand même un système d'observation, on ne peut pas raconter d'histoire. Hein. Et puis, pas raconter d'histoire pour ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passe depuis des années, parce que ça fait des années que les professeurs de l'UNRWA apprennent aux enfants de Gaza à lire et à écrire, et mieux qu'à lire et à écrire. Ils ont même des gens qui font des belles études, qui sont des chercheurs scientifiques de pointe, etc. Hein. C'est-à-dire que, il faut, j'insiste à nouveau là-dessus, parce que il faut bien que ce soit mis dans nos têtes, l'image qu'on a fait du Palestinien, alors l'image véhiculée volontiers par le colonisateur sioniste, c'est de dire c'est un paysan pauvre arriéré qui a quatre chèvres et des oliviers. Bon, ça c'était vrai en 1930. Le problème avec les sionistes, c'est que précisément ces Palestiniens qui sont les enfants de ces paysans pauvres qu'on a mis à la porte dans les années 30 ou les années 40, ils ont fait des études, ils sont allés à l'université, ils sont tout à fait capables de faire des choses remarquables et de diriger un État. Et c'est ça qu'on
et
veut
surtout,
pas.
Surtout, ils sont à l'extérieur, il y a des ingénieurs.
Et en plus, tout à fait.
Il y a des cadres, il y a des chercheurs.
Et il faut savoir que ce rapport qui s'est créé dans les années 30, alors je le signale parce qu'on va en parler plus longuement dans une émission spéciale, ce rapport entre les gens qui arrivaient, genre Ben Gurion ou autre, Dayan, etc., qui arrivaient d'Europe, même avant la guerre, mais qui arrivaient d'Europe, ils avaient une formation, ils étaient éduqués, il y avait autour d'eux des ingénieurs, des scientifiques de très haut niveau, et donc ils avaient un rapport de mépris de classe par rapport à ces Palestiniens qui étaient là. Hein. Vous arrivez, c'est un pauvre paysan qui ne sait pas lire, pas écrire, qui n'a même pas un titre de propriété écrit, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait, et qui ne s'est jamais préoccupé d'un titre de propriété, et vous le prenez pour un imbécile. Et vous essayez qu'ils restent imbéciles. Le problème avec les sionistes, c'est que les Palestiniens ne sont plus des imbéciles. Il n'était pas, je ne dis pas que le paysan pauvre analphabète est un imbécile, mais on lui faisait croire n'importe quoi. Hein. Bon, c'est fini. Alors là, effectivement, la position sioniste devient délicate, parce qu'on a affaire à des gens qui sont aussi intelligents que nous, qui ont décidé de se battre, et effectivement, comment on va faire? Et pour l'instant, la seule réponse qu'ils ont est navrante, puisque c'est « on va essayer de les tuer ». Bon, alors ça ne va pas marcher. Mais ils en ont tué déjà beaucoup trop. Ça pourrait être mieux. Ouais. Ça pourrait être mieux. Voilà ce que je voulais dire donc sur M. Lazzarini, l'UNRWA, qui a été son interview est remarquable et fait honneur à l'ONU. C'est pas si souvent qu'on dit bravo l'ONU pour avoir fait ça. Ouais. L'ONU l'a fait et l'a bien fait. Ensuite, alors, restons dans ce contexte pour parler de l'agitation de l'appareil de propagande israélien autour d'une éventuelle inculpation de M. Netanyahou par la Cour pénale internationale. Alors ça, c'est la dernière trouvaille. Et alors vous allez, alors là, on en parle énormément. Alors, c'est assez étonnant. Autant on parle très très peu de ce qui a été voté par la Cour internationale de justice sur les caractères génocidaires de l'action de l'armée israélienne, autant là, on dit, oh là là, si vous saviez ce que Netanyahou est inquiet. Ah oui, alors, tremblez dans vos cuisines, Monsieur Netanyahou est inquiet. Ouais. Alors, en fait, il faut savoir que la Cour pénale internationale est une position assez différente de la Cour internationale de justice, qui appartient, qui est l'organe de l'ONU. La Cour pénale internationale appartient à ceux qui l'ont créée, et en premier aux États-Unis, qui ne s'y sont pas soumis eux-mêmes. Donc c'est bien un organisme qu'on fait fonctionner en fonction des intérêts des puissants, surtout des intérêts des puissants de l'Ouest. On l'a vu dans un certain nombre de procès africains, on l'a vu dans un certain nombre d'autres procès, c'est tout à fait clair. Donc mettre en avant les inquiétudes de M. Netanyahu en disant « il pourrait y avoir un mandat d'arrêt lancé par le procureur de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahu pour crime contre l'humanité hein. ». Qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là? Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la présentation qui est faite dans nos médias occidentaux, c'est dire, ils ont bien envoyé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, donc pourquoi pas. Et donc, on fait le parallèle. Alors, je vais m'arrêter sur ce parallèle, parce que ce parallèle est vicié, et j'allais presque dire vicieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez ce qui s'est passé en Ukraine en 2022, et en 2023, la Cour pénale internationale, donc à l'instigation des États-Unis, etc., envoie un mandat d'arrêt contre M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et donc une haut fonctionnaire, une dame, responsable des opérations humanitaires dans le pays. Et alors ce mandat d'arrêt n'a pas été suivi d'effet. Il n'a pas été suivi d'effet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour pénale internationale, là, elle marchait sur des œufs. Parce que quand ça s'est passé en mars 2023, vous envoyez un mandat d'arrêt contre M. Vladimir Poutine qui aurait déporté des enfants ukrainiens en Russie. Mais attendez. Vous n'êtes pas à jour, messieurs, vous n'êtes pas à jour, parce que depuis mars, je crois, 2022, les républiques du Donbass et du Donetsk, et la Crimée depuis 2014, font partie, ont adhéré à la Fédération de Russie, sont des territoires russes, et aujourd'hui, la guerre qui est menée, elle est menée à partir dans le territoire russe, pour que le territoire russe soit dans sa totalité sous le contrôle des autorités russes. C'est ça qui se passe. Alors, quand M. Poutine, il n'a pas fait lui-même, mais les services humanitaires ont dit, les enfants qui habitent dans le Donbass et qui reçoivent des tirs de canon des Ukrainiens, si on peut les emmener pour éviter qu'ils soient orphelins ou qu'ils meurent là-dessus dans un champ de bataille, on les emmène en Russie, où ils seront au moins à l'abri. C'est ça qui s'est passé. Alors, dire que ce monsieur a commis un crime contre l'humanité en envoyant une partie de ses citoyens, petits en âge, à l'abri des tirs des Ukrainiens, c'est quand même aller un peu loin. Et d'ailleurs, ça s'est
il y a deux points de mesure. Quoi.
Mais oui, évidemment. Là, il a tué personne. Hein, mais il est accusé de déportation d'enfants.
Ouais, c'est tout, hein.
Mais il a fait déplacer des enfants russes sur le territoire de la Russie pour qu'ils ne soient pas dans le champ de bataille.
Donc, ça n'a pas été suivi.
Mais alors, on nous agite ça. Ah, Poutine a été inculpé. Il y a un mandat d'arrêt contre Poutine. Ouais, voilà.
Alors, beaucoup de ces enfants, avant Zelensky, croupissaient dans les caves dans le Donbass.
En plus, oui, bien sûr.
D'aller à l'école, etc.
Mais oui, parce qu'ils risquaient toujours, dès qu'ils sortaient dans la rue, de prendre un obus ukrainien sur la tête. Hein. Donc, on leur a sauvé la vie. Hein. J'espère qu'ils pourront rentrer dans leur famille, s'il leur reste une famille, etc. Bon, mais on est face à un geste humanitaire évident, à l'intérieur du territoire d'un État. Point. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a à reprocher? Alors, mandat d'arrêt contre Poutine, et on se gargarise là-dessus, il y a un mandat d'arrêt contre Poutine.
C'est les mensonges de l'Amérique, je crois. Bon,
c'est tout le temps.
Y a rien de...
C'est tout le temps. Hein, voilà, donc monsieur Poutine a déporté des enfants. Alors on a l'impression, mais des trains, on revoit encore l'Holocauste, ces trains pleins d'enfants, les wagons plombés et tout, mais ça tient pas à deux secondes quand on réfléchit. Mais le problème, c'est qu'on nous vend tellement d'informations irréfléchies en permanence qu'on finit par douter. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et on se dit, ah, Poutine inculpé. Il a mis à l'abri des enfants qui risquaient leur vie tous les jours, hein, parce que le gouvernement ukrainien leur tirait dessus ou sur leur village. Bon, c'est ça qui s'est passé. Bon, il n'y a pas autre chose à raconter que ça. Bon. Voilà, je voulais développer là-dessus pour qu'on comprenne bien ce qui était en train de se passer. Et puis, Je vais vous parler un peu, alors là, sur la question de la guerre dans le Donbass, bon, elle avance bien, au point que de plus en plus, alors je signale quand même, je rappelle aux auditeurs, que le 21 mai, donc dans un mois, pas tout à fait, dans trois semaines, le mandat électif de M. Zelensky est achevé. C'est-à-dire le 22 mai, ce monsieur ne sera plus président de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? On ne sait pas, parce qu'il a prévu qu'il ne fallait pas faire d'élection du fait qu'on était en guerre. Bon, donc il a envie de rester. Mais il sera peut-être dans son fauteuil et dans son bureau, mais il ne représentera plus que lui-même.
Ben, il fait comme son frère, Netanyahou.
Oui, pareil, voilà. C'est ça. Hein, donc, alors, là, du point de vue militaire, les affaires sont claires, puisqu'effectivement l'armée russe avance tranquillement, posément, pour... au moins, je le dis, j'insiste là-dessus, pour maîtriser le territoire des républiques qui font partie de la Fédération de Russie, c'est rien d'autre que ça. Hein. On vous dit la guerre. Non, c'est une armée qui avance à l'intérieur de son propre pays pour repousser un envahisseur. L'Ukrainien, c'est l'envahisseur. Ces républiques, elles ont voté pour faire partie de la Fédération de Russie. Le Parlement russe les a acceptées. Il n'y a plus aucun doute. Simplement, en Occident, on ne reconnaît pas cette réalité. C'est-à-dire que un peuple qui vote clairement pour se rattacher à un autre, ça fait partie, ça s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est oui. Dans les textes de l'ONU, on ne veut pas le savoir, dans la mesure où ils n'ont pas voté comme nous souhaitions. Oui, ça, vous ne voulez pas le savoir peut-être, mais la réalité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Hein. Le Donbass, c'est un territoire russe aujourd'hui, c'est tout à fait clair, et la Russie essaye de le conserver, même de le contrôler dans sa totalité, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors après, ce qui inquiète ces messieurs, dire « Ah, mais si ça... » Alors ils ne le disent pas comme ça, parce qu'ils savent que c'est plus l'Ukraine, ce morceau-là, et ils savent que, enfin, je commence, ils s'en rendent compte, et peut-être pas à Kiev, mais surtout à Washington, on a compris que de toute façon, cette terre ne reviendra pas à une Ukraine quelconque, que c'est terminé. Bon, est-ce qu'ils vont aller plus loin? Alors c'est ça la grosse inquiétude, est-ce qu'ils vont aller plus loin? Ben, ça dépendra de la façon dont vous respecterez vos engagements, dont vous négocierez avec la Russie, on va voir. Mais effectivement, jusqu'à présent, vos paroles ne valent pas cher. Alors, et la Russie a beau jeu en ce moment de rappeler qu'à un moment donné, très très vite après le 22 février 2022, l'Ukraine a négocié un cessez-le-feu et une répartition. Et puis, il est arrivé sur place un certain Boris Johnson qui a dit « Non, il faut continuer la guerre et tout ». Résultat, il continue et on y met des centaines de milliards, j'en ai parlé la semaine dernière, pour qu'elle continue aussi longtemps que possible. Alors, elle continue pas très très bien puisque, alors on va voir ça, je pense qu'on aura droit à ça la semaine prochaine, vous savez, le 8 mai, il y aura un grand défilé sur la Place Rouge en commémoration de la victoire soviétique et ils auront le plaisir, je pense, de montrer à la fois des chars allemands et des chars américains, états-uniens, pris en Ukraine à l'armée ukrainienne, que l'armée russe a ramassé et elle les a emmenés en Russie. Alors ils seront rénovés, mais je pense que ça va être un très beau moment de la grande parade du mois du 9 mai, où on montrera, regardez, ben la guerre avance bien, puisqu'on a saisi des armes qui viennent de nos amis occidentaux. Alors je mets amis occidentaux, évidemment avec des gros guillemets. Voilà pour la situation. Alors, il y a beaucoup d'autres possibilités concernant, enfin, on développera d'autres occasions sur la Moldavie, tout ce qui se passe. Bon, là, on est dans une situation extrêmement ouverte où la domination militaire russe est parfaitement claire. Elle est connue, d'ailleurs, de la part des États-Unis, qui sont prêts à envoyer de l'argent, beaucoup d'argent, de l'armement qui n'est pas très efficace, enfin, qui n'est plus à la hauteur. L'armée russe a beaucoup progressé en niveau technologique. Il faut savoir qu'on a affaire. C'est vrai aussi en Syrie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il faut savoir que les accrochages qu'il y a aujourd'hui entre l'armée arabe syrienne et les terroristes djihadistes, en fait, sont des affrontements technologiques de haut niveau, avec du drone, du GPS, etc. C'est une autre guerre.
C'est fourni.
Oui, oui. Ça, et puis c'est pas la guerre qui était la guerre en 2011 et 2012. Non, on est passé à tout autre chose et ça ressemble beaucoup plus à la guerre d'Ukraine que ce que c'était au début. On était dans une guerre classique et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'armée syrienne a énormément souffert. Mais maintenant, on a l'impression qu'il y a d'une part une montée en niveau technologique et puis une capacité de l'armée syrienne de pas se laisser tuer par parce que les djihadistes, eux, ont accès tout de suite à la technologie la plus élevée. Et donc il faut savoir qu'il faut être au niveau pour ne pas se laisser dévorer par les djihadistes.
Ils ont voulu occuper la Russie dans l'Ukraine, juste pour aussi diminuer le truc en Syrie.
Tout à fait.
Ouais. Tout à... qu'on puisse oublier le problème.
Tout à fait. Oui, on dit, ah oui, oui, dit, ah oui, s'il avait dit si l'armée russe pouvait se retirer de Syrie, on achèverait la République arabe syrienne. Bon, elle ne s'est pas retirée et je pense qu'elle a fait ce qu'il faut. C'est pour ça que j'insiste sur le niveau militaire qui est atteint aujourd'hui, c'est-à-dire que l'armée russe a fait ce qu'il faut avec l'armée arabe syrienne pour former des militaires de haut niveau à ces niveaux de compétences techniques qui sont ceux de l'armée moderne. Alors oui, c'est tout autre chose, c'est une autre guerre. Voilà. L'aviation, les drones, le GPS, etc., la technologie de pointe qui fait maintenant partie de la guerre. Hein. Alors il faut savoir, et c'est ça qui doit inquiéter aussi les Israéliens, c'est-à-dire savoir que l'armée syrienne, c'est plus une armée, c'était une armée classique, était une armée, à la limite, j'allais dire, d'avant-guerre, le mot est méchant, mais c'est une armée, était technologie classique, on avançait sur le front, on tirait, mais ça allait pas très... Non, on est dans une autre guerre, ils sont montés au niveau supérieur. Et donc ils deviennent, pour Israël, très inquiétants, puisqu'au fond, et je disais ça tout à l'heure par rapport au niveau de culture des Palestiniens, c'est la même chose. Ouais. Le niveau militaire auquel est arrivé, le niveau de capacité, de technologie militaire auquel est arrivée aujourd'hui la Syrie, fait est de taille par rapport au niveau technique, technologique de l'armée israélienne. Donc il y a parité de niveau.
Et surtout Hezbollah, actuellement.
Et puis le Hezbollah, au passage, qui lui aussi est très très bon.
Est très très, au point de vue technologie, voilà. Il ne les a pas utilisés jusqu'à présent.
Non, 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 non. Alors qu'on sait qu'il les maîtrise, puisqu'il les avait, il en avait fait la preuve en 2006, et il n'a pas perdu son temps lui non plus, parce que de 2006 à 2024, là aussi, c'est là beaucoup, beaucoup. Le nombre de drones qui sont utilisés aujourd'hui dans des zones de combat était inimaginable il y a simplement 10 ans. Hein. Alors, des petits, des gros, des ceux qui vont, des ceux qui vont bas, des drones suicides, enfin, il y a une variété. Et puis, dans les niveaux de prix, dans les niveaux technologiques, il y a un univers des drones que les militaires commencent à connaître et que les armées les plus évoluées commencent à bien maîtriser. Ça, c'est très, très important.
Et surtout, les drones israéliens, là, le 450 Hermès et le 1000, je crois, ou 900.
Oui, oui.
Hermès, qui sont d'une technologie, et actuellement, le Hezbollah, il arrive à les...
À les détecter, à les intercepter, voilà. Oui, oui. C'est ça la guerre qui se passe. Alors, on nous explique pas beaucoup, on nous fait des propos propagandistes, il gagne, il perd et tout, ça avance à rien. La guerre a totalement changé de forme depuis 20 ans. Il faut savoir, et effectivement, maintenant, les combats se placent à des niveaux technologiques extrêmement élevés, et ce qui est nouveau, c'est que ni Israël, ni les États-Unis au niveau mondial peuvent dire qu'ils sont en avance sur tout le monde. C'est fini. Ils ne sont plus en avance.
Mais vous n'avez qu'à voir quand l'Iran a intercepté. Enfin,
bien sûr. Ça a été...
Ils ont couvert complètement le ciel israélien.
Tout à fait. Et depuis, d'ailleurs, le calme est revenu sur cette question-là. Les Iraniens n'ont pas fait de commentaires excessifs. On vous a expliqué ce qu'on... On vous a montré ce qu'on savait faire. Tout le monde a vu, y compris l'armée des États-Unis. Tout le monde a pu observer. C'est tout. Maintenant, réfléchissez bien à la situation. Voilà où nous en sommes. On n'a pas besoin. Alors, continuez votre propagande sur l'arme atomique iranienne si ça vous amuse. Hein, mais de toute façon, on est capable de se défendre. Vous ne nous détruirez pas comme ça. C'est fini. C'est le moment où vous pouvez dire...
Toute l'industrie nucléaire iranienne sous terre. Hein.
Oui, ouais, voilà. Mais évidemment.
Il faut vraiment des bombes de haut niveau pour...
Évidemment. Voilà, ça c'était donc un point sur... Alors, vous allez dire, on pourrait ne pas s'intéresser à la guerre. Ben, on aimerait bien, hein, on aimerait bien qu'elle n'ait pas lieu. Quand elle a lieu, il faut que nous essayions, autour de ce micro, et vous aussi, auditeurs et auditrices, vous essayez de comprendre de quelle guerre il s'agit, comment ça fonctionne, cette guerre.
Ouais.
C'est pas simplement... Alors, ne venez pas sur des images, c'est pas le Vietnam, c'est pas la Yougoslavie, c'est autre chose. On est déjà dans une autre guerre. Qui engage de gros moyens, mais surtout des moyens très différents.
Très
donc ça veut dire des personnels très très différents, formés autrement, etc., avec des niveaux de rapidité, des niveaux de riposte auxquels on n'est pas habitué. Tout ça avec des projectiles hypersoniques. Enfin, c'est dans un autre univers. Et c'est plus de la science-fiction. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est comme ça que ça fonctionne en Ukraine et sur le terrain du Proche-Orient. C'est pas inutile de le rappeler. Et puis, je voulais vous parler un peu de la... J'ai appelé ça, en sous-titre, dans mes notes, la Pologne en folie. La Pologne en folie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors la Pologne, c'est le gros pays, le plus gros des pays qui sont frontaliers avec la Fédération de Russie, voilà, qui fait partie de l'OTAN. Et il y a toute une série, de débats. Alors il y a des débats intérieurs dans la classe politique polonaise, et puis il y a les idées qu'ont les gens de l'extérieur, je parle des États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces Polonais, sachant que traditionnellement, ça c'est un premier acquis qui fait partie de l'analyse de la situation, les Polonais détestent les Russes. Faisons simple, alors il y a tout, je ne reviens pas sur qui a tort, qui a raison, mais c'est assez facile, vous appuyez sur le bouton russe, ça les met en colère. Bon. Et ça leur a pas toujours rapporté, mais c'est comme ça. Alors là, ils sont en folie parce que ils sont au cœur d'un gros problème. Alors, ils sont d'une part dans une situation préélectorale. Ils ont un gouvernement qui était un gouvernement très très à droite et très conservateur, mais ils ont un président qui lui est plutôt otano-compatible, pro-européen, le président Duda, et donc il y a ces tensions en plus entre des courants politiques, mais ils sont face à des projets qui ne sont pas les leurs, des projets donc des États-Unis dans la guerre que les États-Unis mènent à la Russie, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Alors dans ces projets, il y en a plusieurs. Il y a d'une part la construction en proximité de Varsovie d'un immense aéroport, alors beaucoup plus que ce qui existe aujourd'hui, qui aurait, alors on reste dans l'ambiguïté, une vocation militaire, civile, on verrait bien, on pourrait arriver des bombardiers ou des choses comme ça, avec des gros transports de chars d'assaut, enfin tout serait possible, il est dit dès le départ, alors on dit c'est un très bel aéroport, simplement peut-être un des plus beaux d'Europe quand il serait fini, hein, et ça pourrait avoir une vocation militaire. Ça voudrait dire, soyons clairs, on dit que c'est civil et militaire. En fait, quand les militaires en auront besoin, ça sera une base militaire de très très grande taille à quelques centaines de kilomètres de Moscou. C'est ça qu'il faut retenir.
À la disposition de l'OTAN.
Voilà. Bon, c'est la première donnée. Ensuite, alors, ça c'est le premier débat. Alors, on reste un peu dans le flou. Il a les deux vocations, on verra bien, il n'est pas encore construit. Enfin, genre, on sait, le projet et a été publié. Ensuite, la deuxième question qui se pose, et là elle est plus crue et cruciale, c'est... Est-ce qu'on peut déposer des armes nucléaires américaines, puisque la Pologne n'en a pas, bien sûr, sur le territoire polonais? Alors là, c'est un peu délicat, Alors il faut savoir, c'est l'occasion de revenir, où sont les armes nucléaires américaines? Bon, elles sont aux États-Unis, elles sont dans les sous-marins, elles sont dans les bombardiers qui circulent dans le ciel, il y en a à bord des porte-avions d'Italie, mais il y en a sur le sol de l'Union européenne, depuis longtemps. Alors, il y en a principalement en Allemagne, autour de la base de Ramstein. Il y en a principalement en Italie, autour de la base d'Aviano. Il y en a un peu moins en Belgique, et il y en a aussi aux Pays-Bas. C'est tout. C'est le seul. Ils sont là. Donc, il y a, sur ces quatre pays de l'Union européenne, des bombes atomiques d'un dernier modèle états-unien qui pourraient assez rapidement, avec le missile adapté, atteindre le territoire russe qui n'est pas si loin. Donc ça gagne énormément, c'est-à-dire que si les États-Unis avaient la folle idée un jour de tirer des bombes atomiques sur la Russie, il faudrait depuis Washington ou Capitole traverser l'Atlantique, puis traverser toute l'Europe, etc. Ça serait un peu plus compliqué. Là, c'est relativement facile, on est déjà assez près. Mais si vous mettez les mêmes bombes atomiques qui sont aujourd'hui en Allemagne ou en Italie directement en Pologne, là, les bombes atomiques des États-Unis sont sous le nez directement des Russes, et en particulier de l'enclave de Kaliningrad.
Oui, c'est pas loin. Hein,
voilà, c'est tout près. Hein. Et donc, effectivement, la possibilité, alors tout ça c'est une question de délai, la possibilité qu'une arme nucléaire arrive sur le territoire russe, elle augmente, puisque ça peut aller beaucoup plus vite, puisque c'est beaucoup plus près. Bon, voilà ce qui est. Alors, deuxième débat, alors là, ambiguïté totale. Alors, il y en a qui disent, oui, on les veut, d'autres qui disent, non, c'est pas le moment, etc. Mais il faut savoir que la classe politique polonaise est très partagée là-dessus, parce que ils font le raisonnement qui, dans d'autres périodes, ont été pratiqués par ce qu'on appelait les pacifistes allemands, en disant, mais si nous, en Pologne, on a les bombes nucléaires, les bombes atomiques des États-Unis sur notre territoire, et si la Russie riposte, ben ils vont venir détruire les bases militaires des États-Unis sur notre territoire, ça sera tout prêt. Et donc finalement, on rentre dans la guerre entre les États-Unis et la Russie, est-ce qu'on est bien d'accord pour la faire? Alors, il reste ce vieux fonds juif de haine anti-russe qui existe chez les Polonais, mais en même temps, un gouvernement raisonnable doit se dire, effectivement, est-ce que ça vaut la peine que je risque moi la disparition pour prendre parti dans un conflit entre deux autres? Alors, il peut dire, j'aimerais bien que les États-Unis gagnent, mais enfin, si je dois y laisser une partie de ma population, une partie de mon territoire, ça se discute. Bon, donc vous voyez, la classe politique et la classe dirigeante polonaise, elle est très travaillée. La troisième question qu'il agite, c'est la question de l'agriculture ukrainienne. Alors là, on arrive à un autre problème. Il faut savoir que, et c'est connu, puisque en fait, les premières données sur la prise en main de l'agroalimentaire ukrainien, pour faire large, c'est pas que les producteurs directs des céréales, a été établie par un groupe de travail dans une université, c'est à Oakland aux États-Unis. Donc ils ont trouvé les infos, ils les ont eu, etc. Bon, il est acquis aujourd'hui que la majorité de l'industrie agroalimentaire russe est entre les mains de sociétés des États-Unis d'Amérique, ou de fonds de placement, ou de vendeurs d'engrais, etc. Bon. Et donc, ça veut dire que ce qui sort aujourd'hui comme production agricole, et céréales en particulier, du territoire ukrainien, c'est une production qui profite à des capitalistes américains. Hein, c'est tout à fait clair. Bon. Comme...
Là, on parle bien de l'agroalimentaire ukrainien.
Ukrainien, voilà. Et qui, voilà, oui, okay. Qui est entre les mains de sociétés qui ne sont plus ukrainiennes du tout. Alors, probablement, elles sont de droit ukrainien, parce qu'on les a inscrits au registre du commerce à Kiev ou à Kharkov, mais c'est tout. Hein. Autrement, les capitaux appartiennent à des actionnaires états-uniens, et donc les bénéfices de cette activité vont aller dans les poches de capitalistes américains, pas dans les poches du... Alors, il y aura bien sûr des salariés ukrainiens. Alors, l'avantage aussi, c'est que dans l'état actuel de disparition du droit du travail en Ukraine, le paysan ukrainien, enfin les employés de ces sociétés américaines travaillant en Ukraine, vont être payés au lance-pierre, évidemment. Il n'y a plus de droit du travail, il n'y a pas d'inspection du travail, les salaires se sont effondrés, hein, et donc le paysan, le mot n'est pas adapté sur ces grandes exploitations de milliers d'hectares, etc., avec du matériel agricole, mais le coût du travail ukrainien, il est très très bas. Et donc c'est encore mieux pour les grosses sociétés des États-Unis qui gèrent ces sociétés-là, parce qu'ils ont un personnel qui coûte rien et qui surtout peut pas faire grève. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Hein, voilà ce que c'est. Mais résultat, les produits qui sont produits par cette industrie agroalimentaire ukrainienne, ukraino-états-unienne, sont pas chers sur le marché mondial, évidemment. Et c'est pour ça que ces messieurs ont mené cette opération. Alors quand on dit, le gouvernement polonais dit oui, mais on nous propose le quintal de blé ou le quintal d'orge à tel prix, mais c'est un prix qui est impossible, on ne peut pas résister. Hein, donc notre production va s'effondrer, on va tout acheter en Ukraine. Les paysans roumains disent la même chose, les présidents bulgares disent la même chose. Et donc en fait on a une vraie crise là, puisque tous ces gens-là ont vu, et ils le disent, parce que ça se lit dans la presse polonaise, ça se dit et ça se sait. Et les paysans polonais ont déjà protesté en disant mais ça sert à quoi qu'on travaille, puisque de toute façon là il va arriver des produits qui casseront le marché et qui écraseront le marché polonais. Donc voilà les contradictions dans lesquelles se situe la Pologne. Donc c'est un cas à suivre de près. L'explosion n'est pas acquise, mais on sent bien qu'ils sont au cœur du conflit entre les États-Unis et la Russie et que leur position sera décisive pour la suite des opérations. Et ils sont, je vous dis, coincés entre ce passé d'antirussisme forcené et puis la réalité concrète, c'est-à-dire un gouvernement polonais un minimum responsable ne peut pas accepter de se passer de sa paysannerie, ne peut pas accepter de devenir le champ de bataille dans une guerre qui ne le concerne pas, parce que la guerre entre les États-Unis et la Russie, ça ne concerne pas beaucoup la Pologne. Qu'est-ce qu'elle va y gagner? Rien du tout. Elle a été le champ de bataille, c'est tout, on connaît ça. Bon, pas intéressant. Voilà ce que je voulais dire sur un des autres ans.
Hier, il y a eu un bombardement à Odessa.
Oui. Oui, alors il y en aura d'autres. Alors effectivement, ça c'est un autre aspect que je n'ai pas développé sur la guerre côté ukrainien, c'est-à-dire que l'armée russe, elle est bien sur le territoire réel de la Fédération de Russie, il n'y a pas de doute, mais en même temps, elle veut éviter qu'il arrive à nouveau des chars d'assaut, tout le matériel qui va être envoyé par les États-Unis, mais aussi par d'autres, y compris l'Union européenne, et donc pour que ce matériel n'arrive pas à portée de canon. C'est-à-dire, s'il est à Lviv, tout au bout, vers la frontière polonaise, ou même à Kiev, c'est un peu loin. S'il arrive juste devant les lignes, la frontière de la Russie, à ce moment-là, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc il faut éviter que ce matériel arrive.
Et
donc
à ce moment-là... Ils ont bombardé les chemins de fer. Hein,
voilà.
Faut pas oublier,
voilà, exactement. Donc il faut couper les lignes de chemin de fer. Les lignes de chemin de fer deviennent des objectifs militaires centraux, puisqu'ils évitent l'arrivée du nouveau matériel américain, allemand, etc., directement sur le champ de bataille. Ça va se continuer, évidemment, jusqu'au moment où il n'y aura plus de voie ferrée, où tout ce qui aura été transporté sera cassé. Bon, ça, c'est un moment qui n'est pas si éloigné que soi. Bon, c'est le moment où il faudra quand même que ceux qui ont voulu cette guerre, c'est-à-dire les États-Unis, s'aperçoivent qu'ils ne s'en sortent pas, et trouver une issue. Alors, quel est le calcul qu'il y a derrière ? Je pense qu'il est difficile pour Biden de capituler comme il l'a fait en Afghanistan en pleine campagne électorale. Donc la situation risque de durer encore quelques mois, on va voir. Sauf évolution de la situation qui n'est pas impossible.
Comme à Gaza aussi.
Comme à Gaza, pareil, c'est la même chose.
Ouais, c'est la même chose.
Voilà. Et je voulais, pour terminer, faire un petit passage sur la prochaine émission mensuelle que nous ferons entendre. Donc ça aura lieu mercredi 8 mai, mais ce jour-là c'est férié, donc c'est une émission qui sera enregistrée à l'avance et que vous entendrez, où on va faire un retour sur un moment particulier de l'histoire de la Palestine. Mais pas que. Parce que l'histoire de la Palestine, et c'est pour ça que c'est l'occasion d'en reparler, en fait, la Palestine existe sur les cartes, j'allais dire, depuis des millénaires. C'est ça qu'on veut nous faire oublier. Alors pourquoi elle existe sur des cartes ? Parce qu'il y a toujours un endroit qu'on appelait Palestine. Et ça, c'est la vérité. C'était vrai du temps de l'Empire d'Alexandre le Grand, qui n'a pas duré très très longtemps. C'était vrai du temps de l'Empire romain. Hein. C'était un morceau de l'Empire romain, mais ça s'appelait Palestine. Ouais, toujours. Ouais. Ça a continué après. C'est devenu, à un moment donné, au moment de la conquête arabe, c'est passé comme une région dans les deux empires arabes musulmans, donc l'empire des Omeyyades, basé à Damas, et l'empire des Abbasides, basé à Bagdad. Ouais. Hein, bon, mais c'était aussi des provinces de ces deux empires musulmans, les Omeyyades et les Abbassides. Ça a été aussi, alors je ne détaille pas tout, ça a été aussi un morceau de l'empire des Mamelouks. Qu'est-ce que c'est les Mamelouks ? Les Mamelouks, c'était des espèces de mercenaires. Ça a été dans l'Empire byzantin, ouais, si je ne l'ai pas dit. Hein, après l'Empire romain, il y a eu l'Empire byzantin. Tout le monde s'est toujours intéressé à ce bout de terre qui était là, toujours placé au même endroit à peu près. Alors les frontières bougeaient un peu, mais c'était toujours au même endroit. Il y avait toujours Jérusalem au milieu, enfin c'est pas tout à fait au milieu géographiquement, mais il y avait toujours Jérusalem, la province de Palestine existait, chez tout le monde.
C'est la naissance de tous les prophètes.
En plus, voilà, parce que voilà les trois religions monothéistes, elles sont nées là. Bon, il y a tout ça qui joue. Alors après, il y a eu les Mamelouks, il y a eu l'Empire Ottoman, etc. Les Omeyyades. Bon, et donc toute cette histoire-là, elle mérite d'être connue, parce que ça veut dire qu'effectivement, cette entité Palestine, qui n'était pas un État, mais faisait partie de la géographie normale. On savait que là, il y avait la Palestine, avec Jérusalem, Haïfa, Saint-Jean-d'Acre, enfin, toute une série de villes, et y compris Gaza, qui est une très très vieille ville, historique.
Ah oui,
avec quand on a pu fouiller sous Gaza, on a trouvé beaucoup de témoignages de l'histoire ancienne. Bon, alors, ça c'est le cadre de la réflexion qui sera faite dans cette émission. Rappelez que la Palestine, c'est là depuis très très longtemps. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'histoire millénaire du monde,
oui,
à cet endroit-là. Ouais. Et ça n'a pas disparu. Alors, le seul moment où ça a disparu, ça c'est un coup des croisés. Les croisés, vous savez que les croisés ont voulu conquérir, comme ils disaient, les lieux saints. Et donc là, ils ont fait un royaume des Francs. Et donc un royaume chrétien, et ils ont appelé la Palestine d'aujourd'hui, ils l'ont appelé le royaume chrétien. C'était un peu plus grand, ça débordait un peu sur la Jordanie, sur le Liban et tout, mais c'était ça. Mais c'est le seul moment où le nom de Palestine a disparu des cartes. Mais en fait, les Palestiniens, c'était toujours les mêmes, parce que pendant tout ce temps-là, les Palestiniens, ils ont toujours été là. Alors il arrivait un nouveau conquérant, il établissait ses règles, il envoyait un gouverneur, un pacha, tout ce qu'on veut, ou un archevêque, comme c'était les chrétiens. Mais le palestinien, lui, il était toujours là. Le paysan palestinien dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il n'a pas bougé. Alors, il y en a qui ont migré, mais enfin, il était chez lui et il restait chez lui.
Avec ses oliviers.
Avec ses oliviers. avec ses oliviers et ses moutons. Bon, ouais, il était toujours là. Ouais, ouais. Donc, il est le palestinien, le palestinien aujourd'hui, il est porteur d'une histoire de 3 millénaires, tranquillement. Il a tout vu. Il a
même,
vu tout.
Même mon père, mon pauvre père,
oui.
Il a travaillé en Palestine. Hein.
Mais voilà. Il sait tout ça. Ouais. Il sait tout ça. Et alors, je vais un peu en arrière, et ce que l'émission est destinée à vous faire comprendre, et elle vous fera comprendre parce que on la fera grâce à la collaboration donc d'une franco-syrienne qui s'appelle Aïssar Midani, qu'on aura à l'antenne, qui connaît très très bien cette région-là du monde, qui s'en passionne, qui fait des vidéos régulières sur le sujet et tout. Et donc, on va s'arrêter à une période très très particulière, qui n'est pas la période contemporaine, c'est la période qui vient de la fin de l'Empire ottoman, allemand jusqu'à l'indépendance, enfin, ou la proclamation de l'État d'Israël. Alors j'explique pourquoi cette période-là. Parce que...
La proclamation du foyer juif.
Oui, alors, au passage, il y a le foyer juif, mais ça se termine. Voilà. Voilà, mais on dit la période, c'est l'État d'Israël est créé, et une fois que l'État d'Israël est créé, alors que l'État palestinien n'est pas créé, on rentre dans la cacophonie qui dure depuis 80 ans quasiment, devant les horreurs, etc. On rentre dans la situation de Gaza. Alors là, c'est le pire, mais ça a toujours été comme ça, ça n'a jamais arrêté depuis la proclamation de l'État palestinien le 14 juin 1948. Mais qu'est-ce qui se passe entre la fin de l'Empire ottoman et cette proclamation de l'État d'Israël, qui a donc tout compliqué, non seulement la vie des Palestiniens, mais la vie du monde entier, j'insiste bien. C'est un abcès dans la politique internationale, dans cette région-là
surtout
du monde.
Surtout actuellement.
Il reste
vraiment,
oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là-dessus que va se centrer l'émission que vous entendrez le 8 mai. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'Empire ottoman est déçu, donc il y a des traités, on appelle les traités de Versailles, on dit c'est fini, il éclate, et il y a toute une série de petits morceaux, donc il y a une Turquie nouvelle dont on reparlera, et puis il y a d'autres morceaux. Il y a d'autres morceaux, et dans ces morceaux, il y a un accord. Alors là, ce que dit la Société des Nations, elle dit que il y aura des territoires sous mandat. Alors un mandat, et je relirai le texte à cette occasion, je vous relirai le texte, un mandat ça veut dire qu'on considère ce pays, la Palestine future en l'occurrence, comme un pays qui a à apprendre encore à vivre les conditions d'une vie démocratique avec des élus, etc., mais qui est sur le bon chemin et que la puissance mandataire va un peu tenir par la main pour lui permettre de grandir. On a affaire à un adolescent qui a un fort potentiel et puis on lui dit on te met un grand qui te tient la main, et puis dans quelques années, tu voleras de tes propres ailes. Qui peut s'insurger? On peut dire qu'il aurait pu se débrouiller tout seul, mais enfin, on lui tient la main pour qu'il soit grand et qu'il soit indépendant. Bon. Alors ça, c'était vrai pour deux endroits, la Palestine, et qui tenait la main de la Palestine? C'était la Grande-Bretagne, et un autre endroit qui s'appelait la Syrie, et qui tenait la main de la Syrie? C'était la France. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'ils s'étaient mis d'accord comme ça, tout simplement.
L'Irak, les Anglais.
Et l'Irak, les Anglais. Bon, ils s'étaient mis d'accord comme ça. Et puis, ce que cette émission est destinée à vous montrer, c'est que entre le moment où on dit ben, on va leur tenir la main, mais il y aura effectivement une Palestine indépendante et une Syrie indépendante, d'un côté la Syrie, ça va finir par marcher, elle sera indépendante, ça sera chaotique et tout, ça se passera pas tout seul, mais de l'autre côté, la Palestine n'est toujours pas indépendante. C'est ça qui s'est passé. C'est là-dessus qu'on va centrer notre émission pour bien vous faire comprendre la manipulation monstrueuse, je dis le mot, du droit international par les anglo-saxons. Je dis les anglo-saxons parce que la Grande-Bretagne a fait la cuisine, mais le chef de la cuisine, c'était les États-Unis. Et ils le sont toujours. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et puis, je veux dire un dernier mot qui nous donnera une entrée pour la musique que j'avais sélectionnée. Un mot sur le Premier ministre espagnol. Je ne rentre pas dans les détails. La situation politique en Espagne est telle, alors ce monsieur est de gauche, il est au Parti Socialiste, il a une assemblée à peu près, enfin un peu à gauche autour de lui, mais il faut savoir qu'en Espagne, les franquistes et tous les nostalgiques de la dictature sont réveillés et qui sont prêts par tout moyen, y compris les plus corrompus, les plus infects, à faire tomber ce régime de gauche qui est un des derniers régimes de gauche existants dans l'Union européenne. Et M. Pedro Sanchez, l'actuel Premier ministre, qui envisage, lui, de reconnaître la Palestine dans quelques semaines, j'insiste là-dessus, on en reparlera, ce M. Pedro Sanchez, la semaine dernière, a dit « Moi, j'arrête, je prends 5 jours ou plus parce que je m'enferme chez moi avec ma femme, on va réfléchir s'il faut continuer dans cette situation épouvantable et intenable, tous les coups tordus qui sont possibles, on a accusé à sa femme d'être une transsexuelle, enfin, toutes les horreurs possibles ont été déployées, et il est parti en disant « Je veux souffler, je m'enferme chez moi en famille, je réfléchis pour voir si je continue à faire ce métier qui devient de plus en plus éprouvant. » Bon. Et il y a des gens qui sont inquiétés. Et moi, j'ai lu, c'est très intéressant, un article du Parti communiste ouvrier espagnol, donc le parti le plus communiste et le plus ferme sur ses positions existantes en Espagne, qui a dit « On n'est pas pour lui, mais ce qui se passe s'il s'en va, c'est une catastrophe. » C'est-à-dire que c'est les franquistes qui reprennent le pouvoir. Et ça, on ne veut pas. Bon. Et donc, pas peut-être... suffisamment, enfin, pas été une raison suffisante pour que Pedro Sanchez revienne. Au bout de 5 jours, il est revenu en disant « Bon, ça, je reviens parce que ça, le combat mérite d'être continué. » parce que je ne veux pas que les franquistes reprennent le pouvoir. Bon, ça c'est bien. Donc je voulais parler de la... Voilà. C'est ça la situation en Espagne. Il faut savoir que si nous avions, nous, une espèce de Zemmour quelque part vers l'Élysée, ça serait pareil. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Hein, c'est ça qui est en préparation chez nous. Hein. Alors, Bardella, je ne sais pas, il navigue dans n'importe quelle eau, mais Zemmour, c'est tout à fait clair. C'est un nostalgique de Pétain qui ferait la même politique s'il revenait. Hein. Donc, regardons bien ce qui se passe en Espagne, c'est très très intéressant, et c'est une leçon qu'on doit connaître. Voilà, et on passe pour finir, voilà, un petit bout de la chanson qui s'appelle, c'est une chanson de la guerre civile espagnole, qui s'appelle « À la grève ». C'est pour parler un peu.
Je te fais un peu presser parce qu'il y a la rediffusion de l'émission sur la Palestine qui a été programmée.
Ok, oui, c'est vrai, vous savez. Non, tu passes ce que tu peux. Merci de votre attention.
Merci.
A la huelga, compañero. No vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los